nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un outil scientifique, l'histoire des vaincus, un monument aux élites obscures, peu de femmes dans le métron. La ligne de force de ce dictionnaire est l'histoire des couches populaires en France, des dizaines de tomes, l'histoire du mouvement ouvrier de la Révolution française à nos jours. C'était dans La Fabrique de l'Histoire, un documentaire signé Irène Berelovitch, Promenade dans le métron, la révolte de A à Z. Première diffusion sur France Culture le 23 avril 2001.
Tarn, Albert Michel, Albinet Henri, Alison, Almérac Henri, Amiel, Andrieux, Andrieux Aimé, Armand Goléo.
Chopin Cotter, né le 16 septembre 1886 à Solomine, à Sage-Colibo, Pas-de-Calais. Mort le 12 avril 1963 à Lens, Pas-de-Calais aussi.
Ouvrier
du bâtiment, militant syndicaliste et socialiste, secrétaire de l'Union départementale CGT du Pas-de-Calais. Je continue. Vous avez la chance, je ne suis pas pressé. Ouais, c'est petit. Hein. Secrétaire du syndicat du bâtiment de Salomine, Pierre Chopin figura parmi les premiers rôles du syndicalisme ouvrier dans le Pas-de-Calais pendant l'entre-deux-guerres. Bah moi, je suis pas venu pour rien, j'ai appris un truc. Parce que la CGT, je connais, mais lui, je connais, c'est bon.
Allez, salut.
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, tome 22, page 292. Quatrième période, de la Première à la Seconde Guerre mondiale. Promenade dans le métron, la révolte de A à Z.
Zoukola, en 1922, Zoukola était délégué du syndicat des municipaux de Marseille à l'union locale CGT. En 1925, il soutint à ce titre la grève des banques de Marseille et de la région. Source, le Petit Provençal, 2 mai 1922, août 1925.
Tome 43, page 484, 1914-1939.
Blanc, Blanville, Blancol, Blanquet, Cyprien, Blasco, Théodore, Blaché, Boncourt-Paul, Boniface, Bonafou, Henri, Bonardel-Émile, Cornelès, Cornelès, Mignol-Émile, Cédric.
René et Jean-Jacques Eisenman, vous avez corrigé combien de
les
44 volumes du métron ?
Sur les 44, la dernière série en tout cas, c'est-à-dire une vingtaine. Enfin, nous n'avons pas corrigé une vingtaine, une bonne dizaine. Relu surtout.
Alors vous avez les... ça fait combien dans une bibliothèque ?
1,70 m.
Les 1,70 m de dictionnaire dans votre bibliothèque, vous les ouvrez de temps en temps ?
Ah oui.
Bien sûr que si.
Au hasard ?
Non, ah non, pas au hasard en général. Quand
au hasard d'une lecture, on trouve un nom qui nous en suggère un autre, on relit l'autre bibliographie. C'est comme tout le temps, on fait comme ça.
Mais c'est très, très, très prenant parce que quand on en ouvre un, on n'en sort plus. On feuillette et on trouve toujours des noms qu'on a connus, qu'on fait référence. Surtout, ça dépend des périodes. Moi, il y a deux périodes que je connais plutôt. Personnellement, je connais pas mal. C'est la période de la Commune de Paris. Et la période de 38-39, c'est un peu mon histoire. Enfin, je recoupe des gens, en tout cas. Et là, je retrouve des gens, je retrouve des trucs, et je pousse des hurlements, c'est pas juste, c'est pas vrai, là c'est vrai, là c'est pas vrai, je pense que c'est pas vrai, etc.
Et ce qui m'intéressait beaucoup chez Métron, c'était déjà dès cette époque-là, sans souci, on y reviendra, je crois, de faire coexister, de faire vivre ensemble tous des gens se réclamant du mouvement ouvrier, intéressés par son histoire, et venant de différents horizons. En réalité, il y a ce qu'on appelait mouvement ouvrier à une certaine période, c'était ceux qui revendiquaient, enfin dans une perspective marxiste, la prise du pouvoir par la classe ouvrière, quoi, enfin...
Et pour vous, René Lemarquis, c'était une façon de militer, de travailler à ce dictionnaire.
Ah oui, alors là, j'y pense beaucoup. Pour Métron aussi. Bon, il fait sa thèse en 1950, c'est le mouvement anarchiste, hein, c'est assez connu, hein, c'est... et il voulait, il le dit, je ne sais plus, j'avais relevé sa phrase qui était quand même assez intéressante, il dit « Ma thèse est née d'un désespoir d'amour, ma rupture avec le parti. J'ai voulu comprendre un mouvement que j'avais critiqué jusqu'alors sans le connaître. » C'est assez intéressant, enfin, comment il en est venu. Et alors, son idée, c'était il faudrait connaître absolument tous, il n'y a pas d'ostracisme possible. Et il dit même une fois, je crois que quelqu'un qui aurait participé une seule fois à une grève aurait joué un rôle important ou qui aurait apporté un élément nouveau de théorie, il a sa place dans le dictionnaire, même si après on n'en parle plus, si on n'en parle pas avant.
Est-ce qu'il y en a un de vous qui a Métron dans son...
Pas moi. À moins qu'on le refait, ça m'étonnerait.
C'était pas cette année, c'est l'année 64. On l'a pas.
Ah, ah si, Métron, tu l'as. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est le hasard du Métron, ça, c'est chouette.
Il est né le 17 décembre 1910 à Sardy-les-Péry. Il a donc connu une... à peu près une grande partie du mouvement ouvrier. Marié le 9 avril 1936, père de 3 enfants, instituteur puis professeur, il fut ensuite détaché au CNRS.
Militant, le dictionnaire, historien, c'est un acte de foi. C'est
il était fils
l'œuvre des militants.
Jean Métron.
Il m'arrive le soir de prendre le dictionnaire de Louvre à n'importe quelle part. Je dis bien n'importe quelle part. Et alors on trouve de ses biographies, de ses oubliés de l'histoire, en trois lignes.
J'ai eu l'impression d'avoir été moralement trahi.
Qui me laisse rêveur quand même, parce que derrière ces trois lignes, il y a l'inaccessible de l'individu. Mais cet individu a vécu, a existé.
La solidarité
a combattu
puis a procédé par la suite dans le
et est mort parfois désespéré. Eh bien aujourd'hui, il n'est pas mort pour rien, voyez-vous, parce que son exemple existe et se maintient et vivra par le dictionnaire.
Pour l'essentiel, cependant, Jean Métron faisait oraison et se retira de l'action. Il se retira de l'action. Tout au plus accepta-t-il en octobre 44 le poste de secrétaire de la sous-section d'Anière du Syndicat national des instituteurs. Jean Métron avait néanmoins décidé dès 40 de se consacrer à l'histoire sociale. Et c'est ainsi que, sous la direction du professeur Renouvin, il entreprit, la paix revenue, une thèse d'État sur l'histoire du mouvement anarchiste en France. Puis il entreprit d'élaborer un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français et international, œuvre collective réunissant une centaine de participants.
Tome 35, page 194, de 1914 à 1939.
Oh! Je sais mieux que quiconque, et on me l'a fait remarquer, et de très chers amis, voire des parents, m'ont dit, mais ce sont des squelettes, et je sais bien que ce sont des squelettes, qui peut aller au fond de l'être, au fond notamment du militant, cet iceberg dont une partie est immergée, mais qui existe aussi dans les profondeurs. Et qu'a-t-il pensé? Comment a-t-il vécu? Comment a-t-il survécu au cours des crises et au cours des combats auxquels il a été affronté? Et c'est pourquoi j'ai toujours considéré pour ma part, et c'est ce qui m'a soutenu dans mon, j'oserais appeler un combat, c'est que le dictionnaire est une eau de jouvence pour le militant, que j'y ai passé 30 ou 40 ans de ma vie et que je suis resté jeune et heureux.
Le premier tome est paru en 1964, le 44e 31 ans plus tard, et une bonne quinzaine encore dans les limbes devrait voir le jour dans la décennie qui vient. Le Métron, c'est une œuvre illisible de dizaines de milliers de pages où l'on peut se perdre à l'infini, fasciné par l'ambition démesurée du projet. Redonner vie, nom après nom, destin après destin, à une foule largement anonyme sur 150 ans d'histoire. Car son père fondateur voulut y rassembler, de la Révolution française à la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui, je cite, « mirent leur espoir d'une meilleure justice sociale dans l'action de la classe ouvrière, des salariés et des couches les plus défavorisées pour leur émancipation ». En quatre époques, 1789-1864, fondation de la Première Internationale, 1864-1871, la Commune de Paris, 1871-1914, le début de la Grande Guerre, et 1914-1939, plus de 110 000 notices biographiques y sont rassemblées, 42 000 individus pour le 19e siècle, 72 000 pour le 20e, en deux lignes ou plusieurs pages. Depuis, l'essor de l'informatique est venu donner au gigantisme de cette base de données une nouvelle ampleur, et une seconde génération de chercheurs a repoussé à 1968 la frontière du dictionnaire, toujours sous l'égide des éditions ouvrières, rebaptisées éditions de l'atelier. Depuis, d'aucuns ont cru pouvoir proclamer la fin de cette histoire, ravalant du même coup le métron au rang d'un mausolée à sa mémoire. Ce n'est pas ainsi que le sociologue Bernard Pudal a voulu l'explorer.
La plupart des lecteurs du métron, c'est pas très compliqué, hein, c'est l'ensemble de ceux qui ont intérêt cette histoire qui est à la fois l'histoire du mouvement ouvrier, mais qui est aussi l'histoire intellectuelle française en relation avec le mouvement ouvrier. Et Dieu sait si en France c'est important. Puisque le champ intellectuel en France se caractérise par des relations très étroites avec l'histoire de la gauche, d'une manière générale, depuis l'affaire Dreyfus et même bien avant, bien entendu, mais je parle que pour le XXe siècle. Donc on peut s'intéresser à l'histoire de toutes les formes d'institutions qui ont participé à la construction de la société française, que ce soit les coopératives, les mutuelles, les syndicats, etc. D'un certain point de vue, il faut quand même, moi je suis un défenseur du métron, il n'y a aucun doute là-dessus, il faut se rendre compte que c'est un outil qu'il serait ridicule d'enfermer dans une définition du mouvement ouvrier, comme si le mouvement ouvrier était indépendant de l'histoire de la société française. Ça, c'est une aberration. Alors, il est possible que certains lecteurs veuillent ou souhaitent retrouver leur histoire, principalement l'histoire de désorganisation auxquelles ils ont appartenu, etc., et est un usage tout à fait légitime, bien entendu. Donc, qu'ils en fassent un usage mémoriel propre à leur organisation, à leur histoire, à leur famille, à leur au groupe d'immigration auxquels ils ont appartenu, etc., etc. Ça, c'est tout à fait possible et tout à fait légitime. Mais il faut bien voir que, quand même, le cœur de l'entreprise Métron, même si bien évidemment les universitaires, les instituteurs, les chercheurs qui l'ont fabriqué, ce cœur de cette entreprise justifie aujourd'hui, dans le cadre qui est celui de l'université, etc., que parce que c'est un outil scientifique.
Charles, militant socialiste de l'Aveyron, Charles signe la motion Cachin-Frossard avant le congrès de Tours, décembre 1920. Source l'Humanité, 19 novembre 1920.
Travailleur de gaz à Paris, Charles est en 1922 membre de la commission exécutive de la Fédération CGT de l'éclairage et des forces motrices et secrétaire de la section de Paris des employés du gaz. Il ne fut pas réélu au 8e congrès en 1924.
Charles Alexandre, il faut que je lise ce qu'il écrit ?
On va l'écouter.
Né le 7 septembre 1888 à Chanet-sur-Latan, Indre-et-Loire, Charles était employé. Lorsque les syndicats de la ville de la Mayenne, dans la Mayenne, décidèrent vraisemblablement en mars 1933 de créer une union locale. C'est à lui que les intéressés furent priés de s'adresser pour tout renseignement. C'est le 3 décembre 1933 que l'union des syndicats ouvriers de la ville de Mayenne fut effectivement créée. Elle fut déclarée le 6 février 1934. Elle regroupait le syndicat des typographes, 19 membres, des infirmiers, 37 membres, des cheminots, 51 membres. Alexandre Charles en fut élu secrétaire. En 1935, l'UL comptait 99 adhérents, voire Launay, Ernest, Poinceau, Louis-Marie, Préauté, Alfred. Voilà, bon, c'est tout ce que vous voulez savoir. Alors, moi, je connais pas ce homme-là.
Tome 22, page 119. Au quartier général parisien du Métron, entretien entre l'historien biographe Claude Pentier et le futur biographié Claude Poprenne.
tous les deux, Jean et vous, vous avez été communistes, alors que votre père appartient à une autre tradition politique. C'est instituteur laïque, école émancipée, syndicaliste révolutionnaire. Et puis dans le fond, la tradition, elle remonte plus loin, puisque dans le Métron, on a deux biographies de Poprenne, un grand-père... qui s'appelait aussi Maurice, d'ailleurs, hein, né en 1870, meurt en 1945. Donc, vous êtes né en 1931.
Ah oui, j'ai connu,
Vous l'avez bien connu. Bon, vous pouvez nous en dire deux mots, peut-être, du grand-père?
Le grand-père, c'était un cas quand même... ouvrier, monteur en chaussures, enfin, il travaillait dans la chaussure, à Angers, assez anarcho-syndicaliste. Et puis, quand même, moins glorieux, il n'a pas été mobilisé en 14, il était trop âgé. Et avec ses deux frères, qui étaient tous les deux dans la chaussure aussi, ils ont monté une petite boîte où ils ont fait des brodequins pour les poilus. Et petite boîte qui a plutôt bien vécu jusqu'aux années 30, quand il y a eu la crise, quoi. Mais une petite boîte de chaussures qui était quand même relativement importante. Et puis bon, dans les années 30, ça s'est écroulé. En plus, je crois qu'ils se sont, en irlandais, les frères, quand même très antimilitaristes, malgré qu'il ait fait des godasses pour l'armée, très laïque, plutôt révolutionnaire. Pas communiste, ni socialiste, ni radical, un peu anarcho aussi, quoi.
Il avait été coopérateur. Hein,
il avait été coopérateur, oui, c'est ça, oui.
Coopérateur, adhérent du mouvement coopératif qui préconise, à partir des années 1820, l'autogestion ouvrière et organise action syndicale et éducation populaire.
Et mon père, après, était à la coopérative aussi, la coopérative du quartier Les Justices Saint-Léonard, Trélazé d'Angers, Angers-Trélazé.
Gilles Morin, historien.
Nous croisons à la fois les sources internes à l'organisation, la presse, les sources policières qui sont extrêmement riches, même si elles sont un peu biaisées comme toujours, les témoignages, etc., etc. Malheureusement, une partie des militants pour lesquels nous travaillons sont décédés, donc pour toute une part, de toute façon, on ne pourra pas avoir recours aux témoignages, même si on le voulait. Alors, on peut s'adresser aux familles, on peut envoyer des questionnaires aux proches, à des amis, etc., etc. Mais le témoignage a une part non pas accessoire, mais vient en second, si j'ose dire.
René Lemarquis, quand vous avez entendu parler de cette entreprise, donc cet appel, qui était quand même de faire surgir un continent inconnu, des archives, des rapports de police, et en remontant jusqu'à 1789, c'est-à-dire un moment où les états civils, bien souvent, n'étaient pas enregistrés, vous vous êtes pas dit, c'est de la folie, on n'y arrivera jamais ?
Si, Métro lui-même le dit, hein. Il dit la folle entreprise. Il a plusieurs fois ce terme de folie. Mais c'est des choses qu'on voit un peu après coup, hein, quand on a décidé de faire quelque chose.
Moi, je n'ai pas connu Jean Métron, mais c'est un type de personnalité, hein, qui a réussi à un moment, les années 60, où il y avait quand même beaucoup de divisions chez les historiens, qui a réussi à associer des tas de gens très différents. Donc il devait avoir une autorité, à la fois intellectuelle et morale, assez rare.
Bernard Pudal.
À mon avis, c'était une autorité en partie incarnée dans quelque chose qui est très important, je crois, et ça, il faudrait refaire la biographie de Métron, mais d'autres, c'est cette capacité qu'ont eu ces gens-là, au fond, à refuser de parvenir, d'un certain point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui nous fascine tous, dans un monde où on est pris dans le désir de réussite. C'est quelque chose qui nous travaille. Son refus de parvenir se traduit aussi par un profond égalitarisme, qui est que, dans une certaine mesure, ont de l'importance tout autant le grand et le petit. Alors, c'est un peu aberrant. C'est un peu aberrant, mais en même temps, c'est pas si aberrant que ça. Hein. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est troublant. Qui est troublant parce que l'immensité de l'entreprise nous place devant nos critères de sélection et les interroge sans qu'on s'en rende compte. En fait, c'est une entreprise qui met à mal un certain nombre de nos présupposés les plus profonds. La seconde chose qu'il faut peut-être avoir dans l'esprit, c'est qu'en France, effectivement, le mouvement ouvrier est loin d'être négligeable, si j'ose dire. C'est une affaire, c'est pas seulement en France, mais c'est une affaire extrêmement importante. Et c'est vrai que les années 60, c'est un moment où les historiens engagés politiquement commencent à douter de plus en plus. Et donc, il faut trouver une position de repli qui leur permettent à la fois de continuer à travailler ensemble, de faire une œuvre qui soit favorable un peu à cette histoire à laquelle ils s'identifient, et en même temps qui soit une œuvre collective où leurs doutes ne sont pas dits, mais dans une certaine mesure sont mis de côté provisoirement dans cette espèce d'hommage indirect que vont représenter les notices, les nombreux volumes, etc. Et donc il y a aussi quelque chose de pathétique dans cette histoire qui est la première phase sur laquelle il faudrait vraiment réfléchir beaucoup et qui, d'un certain point de vue, se traduit dans l'immensité de cette entreprise qui en laisse plus d'un pantois, parce qu'au fond, tout est anormal là-dedans. Le wouzou, tout le monde sait que c'est normal. C'est vraiment... On va pas s'interroger longtemps sur ce monument-là. C'est pas un monument, d'ailleurs. Par contre, avoir réussi à faire une sorte de wouzou surréaliste, qui est, au fond, comment des gens qui sont petits, Métron et les autres historiens dans les années 50, 60, sont très marginalisés, parviennent à contrebalancer des forces sociales. Alors, tout le monde est obscur dans cette affaire. Et c'est vraiment l'histoire des élites obscures, non seulement de ceux qui sont biographiés, mais de ceux qui font les biographies.
Cazel E, Chabert R, Chalbert, Choulet, Clamène,
le dictionnaire des obscurs et des sans-grades, ça a toujours été une perspective plus que véritablement la réalité, puisqu'ils sont inabordables.
Claude Pentier.
Le propre du militant ouvrier du 19e siècle, c'est justement il n'a pas de blason, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de lettres de noblesse, et donc on le retrouve où dans des archives de police, qui étaient d'ailleurs un danger pour lui, parce que elle le désignait à la répression, au début de la Première Guerre mondiale, elle le désignait peut-être à l'arrestation. Au début de la Seconde Guerre mondiale, ça a eu conduit pour beaucoup à des arrestations préventives, à l'internement administratif.
Deler Joseph,
Montana René, Morel François,
Delpy Marcel,
Delvieux
Fernandez, Delso, Denis, Denis Marie. Duel, Léonard, Dieu, Douzal, Douyen, Ligas, F, Durand, Angelbert, Angelorange Justin, Angelorange Joseph, Escourmou, Espénon, Espi, Esquillard-Pierre, Estivalaise, Hippolyte, Fab Emmanuel, Fab Hippolyte, Fab Liège, Henri, Henri Jean-Marie,
Bouvard Salomon, Guy Domar, Guilhem Maurice,
René le Marquis.
C'est à l'âge de 11 ans que j'ai fait ma première manifestation, que j'ai appris l'international, que je criais en bas la guerre, en bas le fascisme, en bas la calotte, c'était la trilogie, enfin, c'était... Et là, j'ai toujours été marqué, hein, les journées de 34, les journées de 36, bon, j'étais au maquis à la fin de la guerre, c'est... Bon, j'étais quand même intéressé fortement par la vie politique.
Et alors, hein? Vous, c'était de famille ou c'était...
Oui, mes parents étaient ouvriers tous les deux. Hein. L'un carrier, l'autre ouvrière de tissage. Et... Bon, j'ai pu les voir dans les différents mouvements de grève, par exemple, de 36. Mais ils n'étaient pas militants. Si, mon père a été vaguement délégué, mais enfin, CGT, mais pas plus.
Ils sont pas dans le dictionnaire.
Enfin... Oh, non, pas du tout, non. Ils n'ont jamais eu de responsabilité. Mais ils pensaient de ce côté-là, disons. C'était les Vosges, la partie industrielle montagneuse qui était, enfin, avec un mouvement ouvrier assez important. On a eu en 36 un député Front Populaire dans cette région de Saint-Yves, Gérardmer, enfin, c'était... Alors donc, c'était un milieu, plus un instituteur qui était socialiste, plus ou moins franc-maçon, enfin... Tout ça, ça fait un bouillon de culture, quand même, hein. Quand on tombe dans le chaudron, qu'on y attrape la rougeole, hein. Vaut mieux jamais s'en guérir, hein, parce qu'autrement, c'est la jaunisse qu'on attrape. Hein.
Jean-Jacques, vous avez... Un peu au hasard. C'est une femme. Il y a très peu de femmes dans le métro. Fromont-Francine Albertine, née le 2 octobre 17 à Paris, 19e arrondissement, fusillée par les Allemands le 5 août 44, dirigeante de l'Union des Jeunes Filles de France, travaille à Moscou auprès de l'International Communiste. Francine Fromont est un père métallurgiste et une mère couturière. Elle ne put continuer ses études comme elle l'aurait voulu et devint sténodactylo. Elle fut influencée par son milieu et surtout par son frère, qui en 1933 est secrétaire des jeunesses communistes au Lila Seine. Cette même année, elle adhéra formellement à l'Union des Jeunes Filles de France, où elle prit très rapidement les responsabilités. Selon Jean Chaumeil, elle aurait participé à Montreuil vers mars 1933 à la première conférence des jeunesses communistes de la banlieue Est, où fut fondée la région de Paris-Est qui allait de Pantin à Wolfortville. Elle fut élue membre du bureau régional avec Raymond de Salaise, et dès cette époque fut très active dans toute la banlieue Est, au Lila, à Montreuil, auprès Saint-Gervais et à Pantin. En 1934, Francine Fromont finit un voyage en Union soviétique où, en tant que militante de l'International communiste, elle reçut une formation technique approfondie, en particulier dans le domaine des liaisons par radio.
Tome 44, additif général aux quatre périodes de 1789 à 1939. Et destin d'un communiste du XXe siècle, Claude Poprenne et Claude Pelletier suite.
Votre père, vous pourriez nous le décrire. Il s'appelait aussi Maurice, d'ailleurs. Hein,
oui,
il a repris le même.
Oui. Ah ben, c'était...
Père et la mère, peut-être, parlez-nous à la fois de l'un et de l'autre.
Le père, c'était le hussard noir, quoi. Il a fait l'école normale entre 14 et 16. Il faisait que 2 ans au lieu de 3 à l'époque, puisque ça avait été réduit à cause de la guerre. En 16, donc juillet 16, il a été mobilisé. Comme il avait fait avant une pleurésie, ils ne l'ont pas pris en service actif, ce qui est assez surprenant, parce qu'ils avaient besoin de monde pourtant, parce qu'il avait une santé trop fragile, moyennant quoi il est décédé, il avait 93 ans, quoi. Et alors donc, il a commencé sa carrière tout de suite après la guerre, comme tous les instituteurs loin des grandes villes. Et c'était quand même plutôt le mangeur de curé, quoi. Hein. Ma mère, j'ai pas beaucoup connue, elle est décédée très jeune, elle avait 35 ans, moi j'avais 6 ans, d'un cancer du sein, elle a été emmenée très vite. Donc je n'ai de vagues souvenirs, un des rares souvenirs.
Elle ne travaillait pas
Non, elle travaillait chez elle comme dentelière, couture. Un des rares souvenirs que j'ai, c'est d'être allé avec elle dans un centre où arrivaient des réfugiés espagnols de 36, donc à l'automne 36, et qui était plus ou moins en guenilles, et ma mère était venue apporter des vêtements, réparer des vêtements pour eux, dans le quartier d'ailleurs. J'ai retrouvé l'endroit où c'était il n'y a pas longtemps, j'ai surpassé devant. Mais c'est à peu près le seul souvenir que j'ai, quoi.
Déjà la mère à la maison nous criait « Vivez vos passions !» Par la fenêtre. Et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins, pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qu'avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. Plus de hasard, plus de destin, on se disait c'est pour demain. On la ferait claquer dans nos mains, la mitraillette.
Claude Pensier, c'est vous qui avez succédé à Jean Mitron. Est-ce que pour vous, clairement, il y a des lignes de force d'une histoire générale qui se dégagent de ces dizaines et dizaines de milliers d'histoires qu'on pourrait résumer
Oui, oui. Ces lignes de force, elles passent beaucoup par l'histoire des couches populaires et leur entrée en politique, leur entrée dans l'action sociale. On la voit se dessiner, on la voit bien se dessiner cas par cas. C'est le rapport de tous ces militants à la culture, à la formation, la marque déjà de l'idée qu'ils ne sont pas liés uniquement à leur origine, qu'ils peuvent par l'école ouvrir d'autres horizons, les choisir. Et alors il est à la fois général, c'est ce fil conducteur, puis il prend des formes très spécifiques. Et c'est pour ça que c'est passionnant, parce que être biographe, si ça consistait à retrouver au bout du compte toujours les mêmes schémas, bon, on se contenterait d'en écrire quelques-unes de ces notices. Puis il y a bien l'idée que il y a à la fois, on a envie de faire de l'histoire scientifique, de l'histoire sociale, mais disons-le, il y a derrière un petit peu de l'estime pour l'acteur du mouvement social, l'homme ou la femme qui à un moment prend des risques, prend à la fois son destin et puis un petit peu celui des autres, comme ça, en main, qui essaye de définir sa propre façon d'exister, de façon non traditionnelle. Et nous, bien sûr, ce qu'on observe au travers de notre travail biographique, c'est qu'à tout moment, des militantismes culturels, des militantismes qui sont basés beaucoup plus sur les idées, je pense par exemple au socialisme chrétien ou à la franc-maçonnerie, viennent accompagner le militantisme plus spécifiquement ouvrier, et ils viennent dialoguer tellement fort avec lui qu'au bout du compte, quand on arrive à la fin de la période que nous étudions, en 68, eh bien, pour la première fois, nous voyons l'irruption majeure de formes de militantisme qui ne soient pas uniquement ouvriers.
Louise Blancard, dites Louisette, votre papa figure dans le Métron, vous allez y figurer dans la prochaine tranche, 1940-1968. Vous avez le sentiment d'appartenir à une lignée de militants ?
Oui. Mais c'était des militants chrétiens, mes parents.
Vous avez grandi avec le sentiment qu'il y avait un monde divisé en classes. Que...
On n'appelait pas ça des classes dans le milieu chrétien. Hein. C'est une appellation marxiste, les classes. Mais oui, il y avait des ouvriers qui subissaient de l'injustice, des salariés qui subissaient une certaine injustice. Et puis en même temps, comme j'avais été attirée par la JOC parce que j'avais lu un livre qui est toujours là d'ailleurs de Maxence van der Merch qui s'appelait Quand les sirènes se taisent, et c'était pendant les grèves de 34 l'histoire d'une ouvrière du textile, et ce livre m'avait bouleversée. J'avais décidé que j'irais à la JOC, puis j'ai décidé d'aller à l'usine. J'avais 25 ans en 46. Et je voulais être ouvrière pour partager la vie des ouvriers, la connaître. Voilà. Alors j'ai été 10 ans ouvrière dans des usines. C'est là que j'ai adhéré à la CGT, puis au Parti communiste. J'ai été aux Pilvons d'Air, d'abord, les fameuses Pilvons d'Air.
À Saint-Ouen.
À Saint-Ouen. Et puis après, dans des usines d'alimentation, la dernière, c'était les Créma Hollywood à Montreuil. Et puis, je suis devenue secrétaire du syndicat CGT, des biscuiteries, chocolateries, confiseries, donc secrétaire permanente, et après secrétaire de la fédération CGT de l'alimentation. Parce qu'à l'usine, j'avais adhéré à la CGT tout de suite.
Mais vous, en usine, vous y entriez avec une stratégie ? Ou c'était une sorte de sacrifice de votre personne que vous vouliez
faire ?
Non,
pas de sacrifice, c'était partagé, c'était par amour, au fond, c'était l'évangile, c'était l'amour chrétien, c'était partagé. Et tout de suite, j'ai compris que ça voulait dire lutter. Je suis pas restée croyante, d'ailleurs, je suis devenue partisane de la lutte de classe et je me suis engagée à fond là-dedans.
Mais ça a été une rupture violente, le passage de la JOC à la CGT ?
Plutôt une délivrance. Vous savez, je suis une insoumise et ça, dans le mouvement, j'étais insoumise dans l'église. Ma mère voulait que j'aie un directeur de conscience, un prêtre qui m'aide. J'ai toujours refusé. D'ailleurs, j'ai été très mal acceptée par le Parti communiste à cause de ça, parce que j'étais insoumise.
D'emblée ?
Oui, d'emblée.
Et pourtant, vous n'avez pas été exclue avant longtemps.
Oh. J'ai jamais été vraiment exclue. C'est difficile quand on est une dirigeante de la CGT, qu'on milite, que les gens autour de vous vous estiment. Les chefs ont beau pas vous aimer beaucoup.
Mais pour vous, justement, vous avez peut-être autant bataillé contre l'appareil du Parti communiste
contre
le capitalisme.
Non, pas autant, mais enfin, c'était pas le même combat. Le combat contre le capitalisme, c'est un combat de fond. Et à l'échelle du monde, contre l'appareil, c'est un combat de toute façon maintenant. Françoise Giroud dirait que c'est sur une ambulance. Hein. Alors bon, ça a pas le capitalisme est bien vivant et il continue à exploiter des millions d'êtres humains. L'appareil du Parti communiste fait de moins en moins de mal parce qu'il est de plus en plus rétréci et il n'a pas prise sur beaucoup de choses.
Regretterez le beau temps des crises, quand pauvres sans pain et riches gavés, nous serons aux prises. Les drapeaux de mars flotteront aux brises, les drapeaux vermeils sur qui vous bavez. Vous regretterez le beau temps des crises, quand viendra le peuple en haut des pavés.
Maurice Jean-Baptiste. C'était lui, le seul ouvrier de la Convention. Il y en avait un, c'était lui.
Donc là, on est dans quel tome ?
On est dans le premier tome. Tome 1.
A, A, C, Z.
De 1789 à 1864. Et Armonville, pour moi, c'était vraiment une révélation, étant donné que c'était un ouvrier. Et non seulement il était ouvrier, il était conventionnel, il était robespierriste, mais il est resté. Il est passé à travers la terreur et il a fini, après l'aventure révolutionnaire, il est retourné au travail. Je crois que c'est un cas extraordinaire, je trouve. Moi, j'aime beaucoup Armonville.
Vous voulez bien nous lire un petit bout de
Oui, bien sûr. Laborieux et chargé d'enfants, 6 naquirent entre 80 et 90 de son premier mariage. Il participa en 89 aux réunions populaires du couvent des Minimes en plein quartier de l'industrie lainière à Reims. Il était ouvrier quart d'heure. Il fut bientôt l'animateur du club populaire qui s'organisait aux Minimes. Son action comme militant parmi les ouvriers de la laine apparaît en pleine lumière dans l'été 1992 quand la guerre menaçait la frontière de l'Est. Le 4 juillet, il était à la tête d'une manifestation de 3500 ouvriers qui voulait aider le maire patriote Arthur Pinchard.
Au temps des crises, il sera député de la où le peuple veille et s'en va rêvant.
Vous pouvez faire une double lecture du Métron. Vous pouvez faire une lecture qui consiste à dire « Ah, c'est une entreprise militante dépassée, puisque le mouvement ouvrier est en crise et on va pleurer. » Mais vous pouvez faire une autre lecture. C'est une entreprise scientifique qui, dès le début, a eu conscience, dans une certaine mesure, de ses rapports avec des investissements, disons, idéologiques, militants, affectifs, mémoriels, vous mettez le mot que vous voulez, avec l'objet qui était le cœur de l'entreprise.
Bernard Pudal.
Et je crois, c'est ce que montrent tous les travaux d'égo-histoire, toute la réflexion française à l'heure actuelle sur les relations entre la vie des historiens et les objets qu'ils ont étudiés, leur façon de les étudier, de les travailler, je crois que d'un certain point de vue, il serait souhaitable que tout le monde prenne modèle sur le métron, c'est-à-dire que l'on ait de plus en plus une plus grande conscience et une plus grande explicitation du caractère, comment dire, mélangé de nos récits historiens, de nos récits scientifiques en sciences sociales. Donc de ce point de vue-là, oui, le métron c'est tout ça, mais dit comme ça, pas autrement, pour moi bien évidemment.
On peut aussi se demander si le fait de travailler sur le monde ouvrier, de travailler sur le syndicalisme, de travailler sur le mouvement ouvrier, si ça ne relève pas aussi plus ou moins du travail de deuil. Tu constates l'échec peut-être d'un engagement.
Christian Chevandier.
On peut se demander aussi comment un engagement qu'on prend à 18 ans, sur lequel on revient somme toute 10-15 ans plus tard, si on ne ressent pas une manière de mettre fin à cet engagement un peu comme une désertion, on peut se poser ce type de questions. En fait, je crois qu'on ne travaille pas par hasard sur le mouvement ouvrier, qu'on ne travaille pas par hasard sur le monde du travail, mais je crois aussi qu'on ne travaille pas par hasard sur les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru.
Voilà.
Septembre 49, professionnel stagiaire, ouvrier spécialisé sur machine, le 29 février 1950.
Donc, il manque un truc là.
Et départ donc en 1950.
Oui, ça c'est vrai ça.
26 août 58. Alors là, il manque quelque chose, oui.
Oui, parce que je suis rentré ouvrier stagiaire, ils ont raison, professionnel stagiaire un an, donc jusqu'au 31 août 50. Et pourquoi ils m'ont mis... Ah oui, 20... Non, ils se sont gourés, là. J'étais... Et alors, en 50, ils m'ont pas renouvelé mon stage, ils m'ont viré. Et puis, deux jours après, ils m'ont repris comme OS. Et j'étais OS à partir du 1er septembre, ou 2 ou 3 septembre, 50. Et j'ai été, à ce moment-là, en chaîne... Tôlerie, et après, sur machine, et c'est pas OS sur machine, ça doit être, c'est à l'automne 50. À l'automne 50, et je suis parti servir la patrie en mars 51. Enfin, c'est pas... En gros, c'est ça, quand même. L'entrée et la sortie, les dates sont rigoureuses. Et alors, militant et... communiste, syndicat, oui, secrétaire du syndicat CGT, oui, oui, ça c'est... Exact.
Si on regarde bien, de toute façon, le mouvement ouvrier n'a jamais été unitaire.
Gilles Morin.
On est obligé, nous, à la fois de travailler sur des secteurs, mais ensuite d'essayer de comprendre ces secteurs en dynamique et de les rapprocher. C'est un des intérêts de l'entreprise Métron. Puis on voit aussi que les parcours peuvent être complexes. Par exemple, longtemps, les communistes ont alimenté les socialistes, si j'ose dire. C'est-à-dire que si les communistes sont nés d'une scission des socialistes, on a vu régulièrement des militants retourner au Parti Socialiste, devenir des responsables. Un des rares moments où on a le mouvement sens inverse à part 1920, c'est la Seconde Guerre mondiale, où quelques socialistes ont rejoint les communistes, à ce moment-là, attirés par la résistance, nombre de choses. Donc on essaye aussi, à travers ceci, de croiser, de voir les logiques, les parcours, de voir en quoi il y a unité, en quoi il y a des représentations communes. Donc le métron, par son existence, concourt à la recherche à la fois parce qu'il apporte des matériaux stables, parce qu'il apporte un côté systématique, parce qu'il apporte aussi une réflexion sur l'histoire militante, sur la biographie, sur des tas de choses. Donc je crois qu'on a beaucoup de sous-produits qui naissent du métron et que la recherche ne serait pas la même sans lui. C'est pour ça que nous la continuons d'ailleurs.
En histoire, se développe depuis plusieurs dizaines d'années, mais de manière maintenant tout à fait conséquente compte tenu des moyens informatiques que nous possédons, se développe ce que l'on appelle la prosopographie ou les biographies collectives. Vous ne pouvez pas faire des biographies collectives, c'est-à-dire une analyse fondée sur des données biographiques d'un groupe, quel qu'il soit, le groupe par exemple des femmes syndicalistes à la CFDT du Lot-et-Garonne ou de telle période ou je sais pas quoi. Vous ne pouvez pas faire des études de ce genre si vous ne disposez pas de banque de données biographiques. Alors ça, c'est l'une des unités du Métron, c'est que ça rend possible toute une série de coupes scientifiques fondées justement sur le recours aux biographies, non seulement dans leur dimension individuelle, mais en tant qu'elles sont inscrites dans des types de trajectoires spécifiques à des groupes, à des moments donnés.
Enregistré par l'AVER, l'Association des volontaires de l'Espagne républicaine, l'ancien brigadiste César Covo était mentionné en deux lignes dans la quatrième tranche du dictionnaire, avec la date de sa naissance, de son engagement contre les franquistes, de sa blessure et de son rapatriement. Sa notice biographique, enrichie et augmentée par l'historien Rémy Skutelski, va figurer dans une nouvelle édition. L'ouverture des sources nouvelles, comme les archives de Moscou et leur dépouillement progressif, entraîne ainsi la révision de milliers de notices jusqu'ici squelettiques.
On m'a mis à l'école française de Sofia, qui était l'école des frères Jean-Baptiste de la Salle, l'école religieuse, alors que ma mère était fille de rabbin. Et alors j'ai suivi l'école, j'ai appris évidemment tout ce qu'ils nous ont enseigné. Et puis ensuite, par la suite, quand j'ai grandi, à l'adolescence, quand on commence à se poser des questions, j'ai commencé à me poser des questions sur la religion. Et alors c'est là, à cette époque-là, le Parti communiste bulgare était dans l'illégalité. Mais par des copains, je suis entré en relation avec certains militants. Et là, ça m'a intéressé davantage. Que là, il n'y avait pas de 36 dieux, il n'y avait pas de 36 solutions. Il y avait d'un côté le capitalisme et de l'autre côté le peuple. Et il suffisait de combattre le capitalisme et d'instaurer le paradis sur terre. Alors ça m'a plu.
Quelques années plus tard, le jeune communiste Covo est à Paris avec sa mère et ses sœurs et milite au sein d'un groupe dit des Balkaniques quand la rébellion franquiste éclate de l'autre côté des Pyrénées.
Ici, il y avait des manifestations tout le temps. On était matraqués par la police tout le temps. Il y avait la salle Bullier. On faisait des meetings, des grands meetings. À la sortie de la salle Bullier, c'était la cavalcade. Donc, il y avait les grèves. On faisait des grèves. On allait encourager les autres à la sortie de la grève. Eh bien, pour une fois qu'on pouvait combattre vraiment le fascisme, autrement qu'en courant devant les flics avec les matraques. C'était déjà assez longtemps que ça durait. Alors que là-bas, au moins, c'était la solution. Bien sûr, on savait très bien qu'on allait là-bas en tant que communistes pour promouvoir nos idées. Bien sûr. Mais enfin, c'était le Front Populaire, oui, momentané, un certain temps. Ça va être le Front Populaire. Mais que, oui, qu'il faut quand même respecter les autres opinions de gauche. Bien sûr. Mais enfin, dans notre fort intérieur, on allait là-bas pour la révolution. Et, ma foi, après l'Espagne, il y a la France. On était sur la route, sur la bonne route, qui mène au but qu'on s'est fixé.
Marty, mademoiselle. Militante du syndicat CGT des professeurs des écoles normales de Perpignan, Pyrénées-Orientales, Mademoiselle Marty fut, en 1938, membre titulaire du comité général de la Bourse du Travail de Perpignan, où elle représentait son syndicat avec Boutonnet École, titulaire et Carnet, suppléant. Est-ce elle ou un homonyme qui avait été, en 1929, membre suppléant du comité général de la Bourse, délégué par le syndicat des professeurs des écoles normales?
Tome 36, page 8,
quatrième période de la Première à la Seconde Guerre mondiale.
Charitas, militant syndicaliste de Saint-Étienne, Loire. En 1917, Charitas était responsable du syndicat des employés de mairie. D'opinion plutôt modérée, il participa néanmoins activement à la grève de novembre 1917, mais s'abstint lors du vote de la grève générale en mai 1918.
Tome 22, page 119. Gilbert Rion, c'est davantage en militant qu'en historien que vous collaborez au Métron.
Oh oui, oui, certainement. Et je m'occupe d'histoire dans une optique militante, avec le souhait que l'histoire, que le vécu, que l'action menée dans le passé serve aux générations d'aujourd'hui et de demain. Le mouvement ouvrier comme une famille, les racines sont nécessaires. Il est important de savoir d'où on vient pour voir où on va.
Et pour vous, donc, il n'y a pas de rupture entre cette histoire qui a commencé à se raconter en 1789 et qui est l'expansion du mouvement ouvrier, on pourrait dire aussi son déclin.
Non, il n'y a pas de rupture. Il y a la vie qui change et la nécessité de s'adapter.
Alors on a pu dire aussi, enfin certains historiens disent que le Métron, d'une certaine façon, c'est l'histoire n'est vaincue.
En quoi est-on vaincu? Si on regarde la situation de nos parents, enfin par exemple, je vais simplement citer... mes parents, mon père, que j'ai vu travailler, je suis l'aîné de 7 enfants, j'ai donc bien vu les conditions de vie. Eh bien, jusqu'en 1936, il rentrait au travail le 1er janvier, et jusqu'au 31 décembre, il travaillait. Seul moment de pouvoir quitter le travail, c'était la maladie. Heureusement, ça ne lui arrivait pas souvent. Autre moment où il quittait le travail, c'était les jours fériés, non payés. Et je me souviens que la période de Noël, Nouvel An, où cela représentait 2 semaines consécutives avec 1 jour férié, c'est-à-dire 1 jour de paye en moins. Ma mère voyait arriver avec difficulté cette période parce que ça allait signifier une période où il allait falloir serrer un petit peu le budget. Quelle énorme différence aujourd'hui! Alors, il subsiste de la misère, etc. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à aménager. Mais nous ne sommes pas vaincus, au contraire.
Si on adhère à cette idée que les rapports de domination, la domination sous différentes modalités, est un phénomène majeur de l'histoire des sociétés humaines, il est évident que les luttes contre ces rapports de domination se traduisent souvent par le fait que ceux qui ont lutté contre n'ont pas réussi à les inverser. De ce point de vue-là, ce sont des vaincus. Mais en même temps, on peut penser que leur lutte n'a pas été inutile, loin de là. Et de ce point de vue-là, ils sont vainqueurs. Pensons au féminisme, pensons aux luttes de libération nationale. Mais il faut quand même regarder la complexité en face. Ces luttes de libération nationale, c'est à la fois probablement quelque chose qui était de l'ordre de la lutte contre les rapports de domination, mais il est vrai aussi qu'on ne peut pas ne pas constater qu'elles se sont souvent soldées par d'autres formes de domination propres à ces sociétés qui se sont libérées. Donc il semble bien que ce soit un combat sans fin. Mais pas entre les vaincus et les vainqueurs. Peut-être entre ceux qui, pour X raisons, sont conduits à y mettre en cause. Et ils sont très nombreux, y compris des dominants, comme on dit. Et ils sont très nombreux à considérer que les formes ou l'intensité de la domination méritent d'être mises en cause.
Claude Claude Poprenne, Claude Pelletier, suite et fin.
Votre frère a pris ses distances.
Oui.
A été oppositionnel dans le parti.
Oui.
Et puis a quitté le Parti communiste. Alors, comment vous l'avez vécu, vous?
Ah, je l'ai mal vécu, moi. Un soir, Léon Feix, qui était membre du bureau politique, il y avait une reprise de cartes. Et il venait à cette réunion de cellule et il est venu me voir avant et il m'a dit, il faut que je te parle. Et il m'a dit, bah écoute, on va exclure ton frère ce soir pour travail fractionnel. Évidemment, pour moi, je tombais de l'armoire, quoi. Bon. Et puis, bah, ça en est resté là, mais il faut quand même reconnaître. Bon, moi, j'ai rompu avec mon frère. On ne me l'a pas demandé. Le parti ne me l'a pas demandé. C'est moi qui l'ai fait. Cela dit, je n'ai fait. J'ai rien dit contre, quoi, mon frère. Bon, j'ai rompu.
Et pour vous, Louise Blanquart, il n'y a jamais eu le sentiment d'avoir été trompé ou de vous être trompé ou vous n'avez jamais remis en cause?
Vous savez, le communisme, ça a été le rêve pour des millions de gens et c'est sûr que ça s'est effondré. Il nous reste l'utopie, la révolte. C'est ça qui nous reste, la colère.
Vous vous êtes jamais reproché d'avoir investi
moi,
votre révolte
façon,
et votre colère?
Que les remords, ça sert à rien. Je suis pas le genre de fille quand on a fait des conneries. Bon, on regrette. Et puis c'est tout. Et ça vous sert à pas recommencer. Mais les remords, les trucs, non. Moi, de toute façon, j'avais déjà vécu la découverte que mon idéal chrétien reposait sur une illusion, que le Christ était mort depuis 2000 ans, qu'il n'était pas ressuscité, et que maintenant ça restait la papauté, c'est-à-dire une institution humaine très autoritaire, avec le pape, tout ça. Bon. Alors j'avais déjà vécu ça. L'engagement ouvrier, l'engagement marxiste, c'était pas une religion, ça n'avait pas le même caractère d'absolu. Alors bon, c'était un moment, c'était une lutte, c'était avec certaines personnes, comme je continue maintenant avec d'autres.
Il y a eu des moments de bonheur total de militante.
Total.
Dans ces...
Mais ça a toujours été bon, la lutte, ça toujours. Ça apporte toujours beaucoup de joie, puis on y rencontre. Le fait que de voir des gens qui n'acceptent pas l'humiliation, l'oppression, qui se révoltent, c'est ça. C'est rien que ça, c'est un bonheur. C'est les êtres humains qui se mettent debout, ils se mettent à quatre pattes ou à genoux. Et ça, ça m'a toujours plu.
Et donc l'idée de défaite vous est totalement étrangère?
Oh ben j'en ai vécu beaucoup, mais je l'accepte jamais. Ben, la défaite, l'effondrement du communisme, c'est une défaite. Mais c'est la défaite d'un système. C'est pas la défaite de la lutte. La lutte, elle a rebondi sous d'autres formes, d'une autre façon. Les formes, le mouvement, les dirigeants, certaines doctrines, tout ça, t'es vaincu, mais la révolte est jamais vaincue. Elle passe de main en main et elle continue.
Alors c'est donc la bibliographie de Marty.
La biographie de Marty.
La biographie, oui, de Marty, qui est, si l'on cherche, le leader communiste qui, pour moi, a eu que j'ai admiré le plus dans tout le temps.
Vous étiez déjà au parti, René, quand il en a été exclu?
Oui, j'étais déjà au parti. Nous avons même essayé d'aller le voir et il a refusé. Il était trop triste, trop abîmé, trop atteint. Alors il a refusé de nous recevoir. Il a eu un grand rôle.
Alors ça, c'est le tome 36, c'est ça? Tome 36, page 8.
Ah bon?
Quatrième partie, le dictionnaire Métron. de la Première à la Seconde Guerre mondiale.
Et alors, il était né le 6 novembre 1886 à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Et il est mort le 23 novembre 1956 à Toulouse, Haute-Garonne. Ingénieur mécanicien de la Marine nationale. Condamné aux travaux forcés comme le militaire de la mer Noire.
Là, j'en ai deux là qui me plaisent bien. Au hasard, Magnin Émile, volontaire en Espagne républicaine. Émile Magnin fut tué le 16 décembre 1936 à Boadilla del Monte. Source, archive AVR. Puis un autre, un des charmes du dictionnaire, c'est sa manévie, Raymond. Né le 3 juillet 1995 à Gilles-Lévesque. Lyon, mort le 15 avril 1961 à Genève, journaliste. Je l'ai bien connu. C'est ça le charme du dictionnaire pour moi. Je me balade et je trouve toujours non, mais de temps en temps, je trouve des noms que je connais comme ça et je repars.
Tome 35, quatrième période, de 1914 à 1939.
Le mouvement ouvrier, c'est essentiellement une référence, une forme de représentation.
Claude Pantier.
Le mouvement ouvrier n'existera plus le jour où personne n'éprouvera le besoin, ou un grand nombre de gens n'éprouveront plus le besoin de se référer à cette histoire. Donc, 68 est certainement un tournant. Il y en a d'autres qui sont le début des années 80 avec des évolutions économiques qui sont ensuite suivies par des évolutions politiques. Donc il y a des mutations, mais en même temps, tout ce militantisme, même des années 80-90, à tout moment fait référence aux origines du mouvement ouvrier, à la commune, à certaines idées, aux débats sur les rapports entre syndicats et gestion des entreprises, etc. Il y a toujours une forme de réintégration. Nous ne faisons pas l'histoire de 68, nous ne faisons pas le dictionnaire biographique de 68. Nous arrêtons en principe à la veille de 68, mais comme nous poursuivons les biographies au-delà, bien sûr, nous sommes amenés à parler de 68 et de tout ce qui suit. Mais ce n'est pas notre choix, notre focalisation. Donc il reste de la place pour nos successeurs, pour pouvoir écrire cette histoire militante de 68, où on aurait bien des surprises. On s'apercevrait qu'un certain nombre d'idées faciles, rapides, ne seraient pas confirmées par une approche biographique.
Tiens, Martin Despalières. Est-ce que je trouve ça, moi, ça me fout en joie. Écoute celle-là, René. Josta de Malberna. Militant de la Gironde, Josta de Malberna fut volontaire en Espagne républicaine. Point. Un joli nom.
La révolte de A à Z, avec Eisenmann René, Eisenmann Jean-Jacques, Blancard Louise, Chevandier Christian, Covo César, Le Marquis René, Morin Gilles, Pentier Claude, Poprenne Claude, Pudal Bernard, Rion Gilbert, Skoutelski Rémy et les passants de la gare Saint-Lazare. Le Métron, CD-ROM et support papier est publié aux éditions de l'Atelier.
Tous les êtres humains restent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns vers les autres dans un esprit de fraternité. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Quand un gouvernement viole les libertés et les droits de l'homme, la résistance sous toutes ses formes est le plus sacré des droits.
Promenade dans le métron. Philippe Mercher, Monique Burrière, Laurent Maquetti, Véronique Lamandour, Irène Berelovitch.
Georges Sand, baronne du Devant, née Dupin, Armandine, Lucille, Aurore. Pseudonyme littéraire, Georges Sand. C'est pas beau ça? Lire cette biographie, pour moi, c'est très intéressant parce que nous avons un débat tous les deux depuis que nous travaillons sur le dictionnaire, même avant. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Et à partir de quand un intellectuel peut-il faire partie du mouvement ouvrier?
Ce documentaire a été diffusé pour la première fois sur France Culture dans la Fabrique de l'Histoire le 23 avril 2001. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».